Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Avec ce matin, le cas de Louise.
Oui, Louise qui a 6 ans, qui est en classe de CP et qui devait en principe avoir sa photo de classe hier dans son école de Boulogne-Billancourt. Sauf que sa classe a été fermée. C'est la mère de Louise qui raconte ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. On a reçu un message pour nous dire qu'un cas de variant brésilien était confirmé et qu'il fallait venir chercher nos enfants, dit-elle. On nous a demandé de faire un test PCR immédiatement et un autre dans 7 jours. Et ce genre de situation va se produire de plus en plus souvent, vous prévient le journal. Oui, parce que la question n'est pas de savoir si on va fermer, mais plutôt quand, affirme un enseignant dans les colonnes de Ouest France. Les écoles bretonnes sous tension, titre le Télégramme. Les cas ont doublé en une semaine. L'inquiétude à la une de Paris-Normandie, en primaire et au lycée. C'est une évidence, le débat s'amplifie, souligne Sud-Ouest. Avec une image de gamin dans la cour d'école qui se plie sagement au rituel des tests salivaires. Un tour de vis, résume Le Parisien. C'est la règle désormais en zone rouge. Les classes fermeront dès le premier cas de Covid. Mais d'autres réclament des mesures plus larges, plus complètes, à l'échelle des établissements, écrit Le Monde. Agacement des profs lorsqu'ils découvrent la communication du ministère comme un slogan. Aller à l'école, c'est continuer à apprendre. Aller à l'école, c'est rester en bonne santé. C'est surtout de la provocation, rétorque-t-il sur les réseaux sociaux. Avec un variant britannique qui touche autant les enfants que les adultes, affirme un épidémiologiste sur le site du Monde, et des enfants qui ne mettent plus guère le nez dehors. C'est du moins ce que la journaliste Titu Lecoq a pu constater avec sa propre progéniture. Elle le raconte sur le site de Slate, alors que moi j'étouffe, je crève d'envie d'ailleurs. Eux préfèrent rester dedans, à bouquiner comme dans une coquille. La dégradation a été insidieuse, parce que progressive, dit-elle, le récit troublant d'une année de crise sanitaire, comme si les enfants avaient fini par entrer en eux-mêmes, partis chercher un mystérieux trésor au tréfonds de leur être. Mais bon, vu de l'extérieur, cette quête donne l'impression qu'ils sont en train de se fossiliser sur le canapé. Il ne s'agit pas forcément d'une phobie, non, plutôt une calme résistance, voire même une forme de cohérence. Puisque les premiers cas de Covid ont fait leur apparition à l'école et que la situation n'est pas claire dehors, alors autant rester au chaud. Situation observée par de nombreux pédopsychologues, nous dit le New York Times. Vous avez peut-être d'ailleurs les mêmes à la maison.
Oui, d'autant Jean-Philippe qu'on parle de plus en plus d'un nouveau confinement strict.
Oui, et l'épidémiologiste Antoine Flahau voit mal comment on pourrait l'éviter, ne serait-ce que pour sauver l'été, dit-il dans Ouest France, faire baisser ce satané plateau de contamination. Encore quelques jours pour trancher, croit savoir Le Parisien aujourd'hui en France, tandis que Le Figaro décrit un Emmanuel Macron dans la tourmente, le président qui voit remise en cause sa décision de ne pas reconfiner le pays dès la fin du mois de janvier. Quand l'hôpital va-t-il craquer? Il a déjà craqué, s'indigne un aide-soignant dans Libération. Il décrit les files d'ambulance à l'entrée des urgences, parfois la tête dans le guidon en permanence. Le dévouement, la vocation. Tiens, voici peut-être le plus bel exemple ce matin dans les pages de l'Union où je découvre l'histoire du docteur Kormendi, doyen des médecins hongrois. Doyen en effet, puisqu'il a 97 ans, dont 70 passés dans son cabinet de Budapest. Officiellement à la retraite, bien sûr, le docteur Kormendi continue de donner des consultations parce qu'il n'est pas possible d'abandonner ses patients en pleine pandémie. Lui qui a survécu à l'Holocauste, il se souvient du jour où il a secouru un soldat allemand blessé. L'idée ne m'a pas effleuré une seconde qu'il était l'ennemi et qu'il m'aurait probablement tué s'il avait su que j'étais juif. Ouais, tout ça pour vous dire qu'il en a vu d'autres, le docteur Kormendi, qui vous montre avec amusement et fierté cette petite grand-mère qu'il soignait déjà quand elle était une petite fille, le concept rare du médecin de famille presque centenaire.
Vous terminez, Jean-Philippe, avec la mémoire des morts de la rue.
Oui, c'est un très beau reportage que vous pourrez lire dans les pages de La Croix, l'Hebdo. Vous connaissez peut-être ce collectif, Les Morts de la Rue, qui recense et publie chaque année les prénoms de celles et ceux qui ont péri sans domicile fixe. L'hommage aura lieu mardi prochain et nous suivons là Sarah, admirable jeune femme de 24 ans qui effectue son service civique au sein du collectif. Sarah a une mission particulière, celle de réparer la mémoire de ces disparus, comme elle dit, collecter les maigres informations, les bribes de vie, dire sans trahir, parce que les gens qui meurent dans la rue, ils ont disparu avant de mourir et c'est ça qui est inacceptable, dit-elle. Alors on pense à Michael, trentenaire au grand cœur, qui vivait sous le métro et balayait toujours devant sa tente. On pense à Jima, qui ne demandait rien et ne se plaignait jamais. On pense à Brice, passionné de livres, cultivé, qui menait de longues conversations avec les gens dans la rue. On se sent plus en paix quand on a raconté un bout d'histoire, dit Sarah, pour chacun une petite ligne, et aussi un bouquet de fleurs, modeste mais sincère. c'est un rituel et c'est une question d'humanité.